Eh bien, bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le samedi 23 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Benoît Fix et ce matin pour m'accompagner, notre correspondant allemand à nous, Hammer. Bonjour Hammer.
Jawohl, Benoît Fix, comment vas-tu?
Ça va très bien, le salon a ouvert ses portes au public depuis pratiquement une heure, donc ça commence à se remplir, ça commence à être un peu plus bruyant que les interviews précédentes, mais on va s'en sortir.
J'espère.
Et pour cette interview, nous recevons quelqu'un dont la voix va parler au plus ancien auditeur de Proxy Jeux, puisqu'il s'agit d'Alexis Hahn, notre ancien monsieur Do It Yourself, qui est aujourd'hui éditeur et qui va nous parler un petit peu de Aurora Games. Bonjour Alexis.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Comment ça va?
Bah bien, je sais pas si ma voix va rappeler beaucoup de souvenirs parce que j'ai un petit peu la voix
cassée. Ouais.
Voilà, ça c'est le salon à force, mais voilà. Mais sinon, c'est avec plaisir que je reviens
au micro de Proxy Jeux.
Exactement.
Alors on a un petit fil rouge en début d'émission, on pose les mêmes questions à tous nos invités. Donc pour toi, Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma?
Ah bah moi jeu, et puis alors c'est toujours très drôle quand on dit aux gens: ah ouais bah je vais au festival de Cannes. Ah bah tu vas
t'es invité,
ouais. Ah, tout ça. Non, le jeu avant, en fait.
Je vais même à
avant
la cérémonie.
Parce que oui. Et non, c'est toujours très très drôle parce que on a un peu focalisé là-dessus, enfin c'est...
Et pour toi, Cannes, c'est plutôt bière ou champagne?
Alors, j'aime pas le champagne, mais le rhum.
Le rhum, plutôt, oui. Plutôt rhum. Ensuite, pour toi, Cannes, est-ce que c'est plutôt camping ou Martinez?
Alors, cette année, c'est encore plutôt camping. 20 minutes de marche, par contre, ça fait long tous les soirs et tous les matins. Surtout à 3h, là, j'ai fini un peu trop tard.
Ah, t'as réussi à rentrer off?
Oui, c'était d'en ressortir qui était difficile. Mais oui.
Plutôt camping, du coup.
Ouais.
Donc, t'as répondu à la prochaine question un petit peu. Pour toi, c'est plutôt off ou dodo?
Alors, malheureusement, hier, c'était plutôt off. Et en fait, j'essaye de pas trop les faire parce que... Enfin, à la fois Cannes, pour les éditeurs, c'est... En fait, au off, moi, je vais pas voir les protos, quasiment. Parce qu'en fait, c'est du réseautage. Enfin, on va voir les gens avec qui on travaille ou qu'on pourrait travailler, etc. Et on discute de plein de projets. Et du coup, moi, c'est cette partie du off-là. Qu'on peut avoir dans la journée, mais qu'on a aussi de manière décontractée le soir après la journée d'animation où on est tranquille entre nous, entre guillemets, même si on est avec tous les joueurs, etc. Mais c'est un petit milieu.
Pour toi, Cannes, c'est plutôt un salon ou un festival?
Alors là, tu fais quelle différence entre les deux?
Je te demande à toi, hein, c'est pas à moi de répondre.
C'est un des deux gros salons en termes d'organisation, donc c'est un peu plus, enfin c'est beaucoup plus impliquant que plein d'autres salons.
Ouais.
Après si en festival, moi je pense aussi au Flip, qui est un très très gros événement qui est beaucoup plus long, sur un rythme complètement différent. Et entre les deux, j'en sais rien.
Ok. Et pour terminer, toi, Cannes, c'est plutôt pro ou perso?
Alors, c'est les deux, parce qu'on travaille. Enfin, on voit des gens avec qui on a travaillé, mais on voit aussi des gens avec qui on a joué. C'est un tout petit milieu. Tout le monde se connaît. Tout le monde s'est offert des bières. Tout le monde s'est offert des jeux. Tout le monde s'est offert plein de choses. Tout le monde a partagé des bons moments. Donc, la limite, elle est extrêmement floue. Et voilà. Enfin, on le disait au début de l'émission. J'ai animé pour Proxy Jeux il y a longtemps. Est-ce que je te vois en tant que pro ou perso? Enfin, c'est clairement les deux.
C'est un peu mélangé.
Il y a pas d'ambiguïté là-dessus. On sait bien que c'est un tout petit milieu et que voilà. Après, on essaie d'être au minimum professionnel, qu'il y ait pas de traitement de faveur, etc. Mais on se connaît tous. Enfin, on connaît tous les auteurs, on connaît les illustrateurs, les éditeurs, les distributeurs. Tout le monde, c'est un peu tout de tout, quoi.
Très bien.
Alors Alexis, après ce passé chez Proxy Jeux, tu es devenu éditeur, je crois, à plein temps depuis 2017, c'est ça?
Oui. En fait, j'étais dans une société extrêmement intéressante, SFR. Bonsoir, Monsieur Draghi, merci bien.
Donc on
pour
cite
le
Orange, Bouygues Télécom aussi pour pas avoir de problème avec le CSA.
Effectivement. Par contre, eux ne m'ont pas donné d'argent. Donc j'ai profité ça dépend comment on voit les choses, d'un plan de départ. Donc du coup, la question c'était grosso modo, si tu pars de la société, on te donne de l'argent.
Ok.
Ok. Combien? Et puis si je crée une société, bah je vais me donner encore plus. Alors du coup, moi l'édition c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. J'ai fait des prototypes pour les éditeurs. C'est à la fois pour ça que j'ai fait les chroniques pour Proxy Jeux et c'est à la fois parce que j'ai fait les chroniques Proxy Jeux que j'ai réussi à en faire pour des éditeurs. Donc, c'est un petit peu les deux. Mais du coup j'avais cette volonté. Je fréquentais des gens qui étaient éditeurs, donc je savais un peu les problématiques de fabrication, les plans de marge, etc. Et du coup forcément on se dit ah ce serait cool si un jour je pouvais, et puis en même temps on se dit bah ça doit pas vraiment être possible, enfin c'est très compliqué. Et puis après avoir trouvé un boulot ailleurs pour partir, pour valider que je pouvais prendre le premier chèque, je me suis dit bon là, je vais quand même appeler quelqu'un que je connais, donc merci Manu, donc Emmanuel Beltrando, et puis je lui dis bah voilà moi j'aimerais bien être éditeur, mais qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit écoute, je peux pas te garantir que ça marchera, mais t'es dans la situation où moi j'étais il y a quelques années. J'ai démarré, c'était pas avec grand chose. Moi j'avais plus que ce que lui avait pour démarrer. Le milieu s'est beaucoup développé depuis, donc voilà. Il m'a dit, moi je suis pas devin, hein, je vais pas te. Mais tu connais le jeu, pourquoi pas? Enfin, essaye. Au pire, tu risques pas grand chose. Enfin, fais attention, fais pas n'importe quoi. Mais si tu fais pas n'importe quoi, bah tu risques pas grand chose. Enfin, au pire, tu perdras un peu de temps et puis t'auras fait plein de projets, t'auras pris plein de trucs et puis bah tu feras autre chose après. Enfin, je veux dire. Mon boulot d'informaticien, je peux très bien aller le refaire là maintenant, ça changera rien. Enfin, j'ai perdu 2 ans sur des nouveaux logiciels qui sont sortis. Enfin, on s'en fout. C'est pas ça qui fait la compétence qu'il y a derrière. Donc voilà. Donc le soir, je me suis endormi en me disant ouais, faudrait peut-être que j'essaye, mais bon, on est toujours frileux. Oh là là, c'est pas facile de sauter le pas. Et puis le lendemain matin ou 2 jours après, je me suis réveillé le matin avec une patate en me disant mais en fait j'ai vraiment super envie de faire ça. En fait j'ai surtout envie de rien faire d'autre. Et du coup, comme il y avait aucun risque, enfin le risque il est dans 2 ans parce qu'aujourd'hui là je passe sur le chômage, donc le chômage l'ARE, c'est le chômage pour les entrepreneurs. Mais j'ai encore 2 ans où entre guillemets je suis financé à moindre échelle que ce que je pouvais avoir avant, mais qui est suffisant. Et voilà, si dans 2 ans je peux pas me générer un salaire, faudra que je trouve autre chose. Et puis, du coup, j'aurais fait quand même 4 ans à faire plein de choses, à rencontrer plein de gens et à apprendre plein de choses. Et
l'expérience sera, quoi qu'il arrive, bonne.
Oui. Et puis, il y a plein de projets. Enfin, après, on en parlera après. Mais,
ouais.
Mais ouais.
Du coup, tu t'es lancé, on a commencé à te voir sur les salons en tant qu'Aurora Game il y a à peu près 2 ans, c'est ça?
Oui. Donc, le premier salon... Alors, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle les enquêtes métiers à Cannes, ouais. Il y a 2 ans. Donc je suis venu il y a 2 ans à Cannes en allant voir tous les éditeurs, distributeurs, enfin plein de gens, des auteurs aussi. Et puis essayer de comprendre un peu mieux leur métier parce que la difficulté, comme tout le monde se connaît, on discute tous les jours, je discute avec des joueurs, etc. Et maintenant je suis éditeur, je suis même distributeur. Les gens ont l'impression de connaître, de savoir comment ça marche, tout ça. Il y a plein de choses qu'on voit pas. Ce qui est normal, hein. C'est quand vous allez acheter du pain à la boulangerie, vous dites, le mec, il mélange de la farine et de la flotte et puis il fait cuire ça, quoi. Enfin, bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, il se lève tôt. Donc, je vous souhaite bon courage. Mais, il y a plein de choses qu'on sait pas. Enfin, on s'imagine toujours les choses un peu plus simplement. Donc voilà. Donc j'ai fait ces enquêtes métiers-là. Je suis allé voir plein de gens et puis alors j'ai plus la tournure en tête, mais grosso modo je suis tous allé les voir en leur disant je sais qu'il y a pas de recette miracle pour voilà. Par contre je suis sûr qu'il y a plein de recettes pour faire de la merde. Il y a plein de façons d'échouer et du coup pour vous laquelle serait la meilleure? Ouais, et du coup plutôt que de partir sur les bonnes pratiques, je suis plutôt parti sur les mauvaises pratiques en me disant les gens ont plein d'anecdotes. Et alors du coup, j'ai eu plein d'anecdotes. J'ai un cahier rempli d'anecdotes de gens. Alors je m'en rappelle plus spécialement. Faudrait que je le relise parce que du coup, il y a des choses drôles. Après, je les dirai pas parce que c'est ce qu'on m'a dit à moi. Et puis je l'ai pas dit dans le cadre d'une interview. Donc ce qu'on m'a dit reste ce qu'on m'a dit et ne sort pas de là. Mais oui, c'est très très drôle et finalement extrêmement formateur parce que après ça reste souvent du bon sens.
Ouais.
Et puis, du coup, après la première apparition professionnelle, on va dire avec un stand, etc. C'était Paris Ludique de cette année-là, donc en 2017, avec
Edamame,
qui était un projet qui finalement sortira chez Happy Baobab.
D'accord.
Parce que c'était pas le bon projet pour moi pour démarrer. Il y avait des choses à faire sur lesquelles il y a la gestion de projet sur laquelle j'étais pas assez habitué, de gérer un illustrateur, etc. Il y a trop de questions et trop d'interrogations, et c'était pas un projet assez facile. C'était pas le bon projet pour démarrer.
Est-ce que c'est pour ça que finalement le premier jeu qui est arrivé avec l'étiquette Aurora Games, c'est Topiary, cette même année ou l'année
suivante? Alors il est sorti l'année d'après, mais il a été signé la même année en fait. Donc 2017 en juin. Donc je travaillais déjà sur Edamame depuis un petit peu de temps. Puis il y avait la problématique des illustrations. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les change? Mais si on les change, il faut les payer. Si on les paye, du coup, il y a un risque projet financier plus important, etc. Et c'est toute cette partie de gestion de risque en fait qui me posait problème. Et puis la très très grosse difficulté, c'est l'enthousiasme. En fait, n'importe qui, hein, si vous avez 20 000 balles, demain vous êtes éditeur, il y a aucun souci. Et le problème, c'est que tant qu'on l'est pas, on se dit oh là là, mais en fait ce serait super cool. Là, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent oh là là, bah finalement 20 000 balles, je peux peut-être faire un emprunt et demain je suis éditeur. Waouh, je suis éditeur. Mais en fait, il y a plein de questions derrière. Là, comme j'ai passé dormi, je viens de perdre le fil de ce que je disais.
Donc Topiary, premier jeu édité avec le.
Et du coup, à la fin de l'année. Essen, j'ai découvert ce petit jeu-là. Je l'ai trouvé très malin et du coup, je me suis dit allons-y. J'ai contacté le partenaire.
Donc c'est un éditeur italien, c'est ça l'éditeur original?
Oui, alors l'éditeur c'est Fever Game, donc Emanuele Di Pirangallo, qui donc avait repéré ce jeu de Danny Devine, qui est un auteur américain, qui avait fait un print and play. Qu'il avait illustré lui-même, et puis Emmanuel a trouvé le jeu très sympathique, et puis il a travaillé avec l'auteur pour le réillustrer, et donc c'est un jeu qui est illustré par son auteur.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que c'est un graphisme assez simple en termes de technique. Après du coup c'est assez épuré, très plutôt graphique qu'illustré.
Ouais. Et du coup t'es content de ce premier jeu lancé, t'es plutôt satisfait? Ça marche bien?
Alors, ça dépend ce qu'on veut savoir. Topiary, c'est un jeu sur lequel je gagne pas d'argent.
D'accord.
Sur lequel j'ai perdu de l'argent. Mais par contre, c'est un très très bon projet. C'est un très très bon projet parce que j'ai appris énormément de choses. J'étais dans un contexte où je sortais d'un boulot un peu pénible, une situation personnelle un petit peu compliquée. Donc en fait, j'avais juste pas envie qu'on m'enquiquine, qu'on m'emmerde. Et du coup, même moi-même, en fait, j'ai pas géré ma société pendant un an. J'ai fait des salons, c'était extrêmement simple. J'ai eu une fille que j'en garde alternée une semaine sur deux. Et s'il y avait un salon et que j'avais pas ma fille, j'y allais. Alors forcément, du coup, à la fin de l'année, quand on fait les comptes et qu'on met bien les indemnités kilométriques, on fait oulala, en fait, j'ai dépensé 6000 balles sur les salons. Ça fait un petit peu. À la fois, c'est plus que ce que j'ai gagné en vendant les boîtes sur un tirage de 2500 boîtes. Après, on connaît les ratios standards. J'ai pas gagné ça. Mais par contre, c'est aussi un budget pour installer la marque. Enfin, aujourd'hui, quand je croise des gens, je suis éditeur. Enfin, les gens, quand je suis allé les voir il y a deux ans, j'étais un petit gars parmi plein d'autres qui leur posait des questions de temps en temps parce qu'il était curieux, il avait envie de faire des choses. Et puis, là, je les avais faites. Alors, le travail de Topiary comparé à celui des Damamé, faut remettre quand même dans le contexte que c'est traduire 4 pages.
C'est la localisation.
Déjà traduite par Stéphane Atimons, qui est quelqu'un qui fait, je sais pas combien il a de traductions sur BGG, il doit être à 600 peut-être, un truc comme ça. Et après, faut juste faire l'animation, donc c'est vraiment une partie très limitée de l'édition, la localisation, c'est très particulier. Et voilà, mais j'ai appris énormément de choses, dont une chose extrêmement importante, c'est que un bon jeu ne fait pas un bon produit.
D'accord.
Si je veux en vivre, objectivement, je m'en fous que mon jeu soit bon. Alors, bien sûr que ça se vend mieux quand c'est bon. Hein.
C'est plus facile en tout cas,
oui,
de le mettre
oui.
en avant.
Mais le problème de Topiary, c'est que quand il est installé sur une table, à côté d'un autre jeu, il n'y a pas de raison de s'arrêter plus sur celui-là que sur un autre. Alors après, oui, moi, tous les gens qui sont arrêtés, qui ont pris le temps, sont venus, ont joué, ont fait « Ah, c'est plutôt malin », etc. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais du coup, tu vas pas faire de retirage », etc. Non, parce qu'en fait, je suis jeune éditeur, donc déjà... on fait pas des gros tirages, mais du coup, je veux pas faire le retirage de trop. Enfin, les quantités de ventes par mois sont pas suffisantes. Peut-être que dans 5 ans, je dirais maintenant que j'ai un peu de trésorerie, un peu plus de, je peux me permettre de le refaire. Et puis même si ça se vend pas vite, c'est pas grave parce que je peux immobiliser de la trésorerie. Après là, c'est de la gestion financière. Alors du coup, c'est difficile de le reprendre parce que du coup, il y a les petites sonneries. Alors du coup, on coupe de temps en temps. Donc je parlais de gestion financière. Ouais. Je ne sais. Oui. Si dans 5 ans, bah, peut-être que je pourrais me permettre d'immobiliser de la trésorerie sur un jeu que j'estime intéressant. Relancer un peu la com. Après, on sait très bien que relancer un jeu, c'est pas toujours simple. Donc bon, on verra. De toute façon, c'est plus du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. À part événements de communication exceptionnels, je sais pas. Une folie pour les jeux avec des dinosaures. Je ne sais pas, mais
en tout cas, c'est un jeu qui a eu plutôt un bon succès d'estime en tout cas.
Oui, bah alors après pour un premier projet, moi toutes les boîtes vont être vendues. Enfin là, il me reste encore quelques boîtes, mais à la fin de l'année, toutes les boîtes auront été vendues. Donc toute ma production a été vendue. C'est pas la pire chose qui arrive aux gens. Enfin alors bien sûr. Après le premier tirage permet de financer le projet, enfin de rentrer dans ses frais, et puis c'est souvent le retirage qui permet après de gagner de l'argent. Donc voilà, mais oui. Il faut juste éviter le retirage de trop. Là, ce serait.
Du coup, Topiary, ça continue de se vendre un petit peu. Qu'est-ce que t'as dans les valises là à Cannes cette année? Tu présentes 2 jeux, c'est ça?
Ouais.
Une localisation et une édition propre.
Ouais.
Alors bah du coup la localisation, parce que bah il y a des chouettes jeux qu'on peut trouver
qui sont pas disponibles en France.
Voilà. Donc bah du coup j'ai signé Rescue Polar Bear. Donc c'est un jeu à la base chinois qui est sorti en 2016 à Essen, enfin qu'on a repéré nous à Essen, qui est ressorti en 2017 chez l'éditeur 2plus, qui l'avait retravaillé. Donc c'est un éditeur taïwanais, parce que le jeu souffrait il fallait quelques petits équilibrages, et du coup le jeu est devenu beaucoup plus, alors il avait beaucoup marqué parce que à cause de son matériel. Parce qu'il y a des petits ours en résine blanc un peu brillant, donc ouais, pour le coup là oui, installé sur une table, les gens ont tendance à s'arrêter.
Ouais.
Bah d'ailleurs là je le présente aux boutiques tout à l'heure, j'explique le jeu sans ouvrir la boîte, et puis bah à un moment forcément la question est combien? Bah 50 €. Ah ouais, quand même. Et puis j'ai ouvert la boîte et puis j'ai dit bah oui, mais par contre voilà,
ça, les ours
ils sont comme ça. Et là il a fait OK. Après c'est un jeu cher, donc après bah c'est discriminant pour les gens qui pourront pas s'acheter, tout le monde pourra pas l'acheter. De toute façon, il y aura pas énormément de boîtes non plus, donc bah parce que c'est un jeu cher et que bah c'est un investissement en trésorerie important. Mais du coup ouais, c'est une histoire un petit peu marrante, Rescue Polar Bear, parce que bah je l'avais vu à Essen. Pour moi vu le côté appealing, enfin on voit sur la table tout le monde saute dessus, ouais. Etc. Enfin il y a un potentiel marketing important. Je me suis dit mais c'est même pas la peine que j'aille voir en fait, et il doit y avoir plein de gens dessus. Et un jour il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit Alexis, tu connais Rescue Polar Bear? Je suis bah oui, Essen, ok, taïwanais, Smokes, etc. Et du coup je dis bah oui, c'est un jeu très sympa, et puis alors, super super beau et tout. Il me fait et si on le faisait ensemble? Je dis, pardon. Enfin, d'où il est pas pris, enfin voilà. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et du coup, bah c'est donc avec Ludo Ubuntu, qui est quelqu'un qui travaille là-bas, et puis bah, qui travaille avec les éditeurs pour ramener des jeux, mais qui ne peut pas présenter les jeux au public, etc. Enfin, son objectif de vie n'est pas en France. Et du coup, bah, il avait besoin d'un partenaire pour pouvoir en assurer la communication, etc. Et puis comme c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui ça se passe très bien, avec qui on a fait plein d'autres choses, bah du coup, forcément, je lui dis oui, quoi. Enfin, voilà. Et donc du coup, bah ça devrait arriver entre Paris et Ludique et Essen.
D'accord. Pour cette année. Voilà.
Ouais.
Et donc le deuxième jeu que t'as sur ton stand, qui pour le coup là a une édition propre de A à Z, s'appelle Phone Bomb.
Ouais.
Et il a la particularité de se jouer avec une appli.
Oui. C'est un jeu hybride.
Peux-tu nous raconter un peu le principe du jeu, et puis comment l'idée vous est venue?
Ok, alors donc ouais, déjà premier jeu en développement. Alors du coup, je suis content parce que là, on commence à arriver sur un produit qui ressemble à ce que la boîte finale sera, matériel compris. Et c'est extrêmement difficile. C'est ce que je disais tout à l'heure. Topiary, c'est un jeu qui était en termes de travail d'édition, Topiary, c'était extrêmement pauvre. Hein, j'ai 4 pages à traduire.
C'est plutôt facile du coup.
Ouais. Enfin après, faut juste faire le chèque, quoi. Enfin, c'est pour ça que je disais, vous avez 1 000 €, vous êtes prêt à traduire 4 pages, vous trouverez plein de jeux. Je peux même vous en donner ceux que je veux pas faire. Il y en a plein. J'en ai dans des cartons, tout ça. Du coup, là, fallait trouver un illustrateur, fallait le diriger ou trouver un partenaire. Alors au début, j'ai essayé avec un illustrateur. J'ai essayé de le diriger, ça s'est pas bien passé, juste parce que je savais pas trop.
Comment faire.
Je savais pas trop comment faire. Je savais pas trop où aller. ça collait pas, c'était pas de sa faute, hein. C'est quelqu'un qui fait des choses très 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 bien et avec qui je pourrais peut-être travailler maintenant sur d'autres projets, mais voilà, c'était pas la bonne personne pour ce projet-là. Et puis comme souvent, quand vraiment je suis en galère, je fais un truc tout simple, c'est l'appel à un pote. Donc merci Yann, moi aussi je pourrais le mettre dans les règles.
Ken Parovel.
Ouais. Et puis, je lui fais mes états d'âme et puis il me dit écoute, tu peux peut-être essayer Christopher Matt, tu l'as déjà vu. C'est un mec cool.
On le reçoit demain d'ailleurs.
Tu pourras lui en parler. Et puis, essaye peut-être. Il y a moyen. Enfin. Et puis il avait déjà joué au jeu à Paris Ludique l'année dernière.
2018.
C'est ça. Le jeu avait été un petit peu présenté en proto pas avancé, early proto, les premières versions pas très très belles. Il avait trouvé ça marrant alors qu'il avait joué avec des gens qui refusaient de jouer sur un téléphone, donc c'était très très drôle parce que vous pourrez mais grosso modo il a passé une partie de merde avec des gens qui avaient pas envie de jouer, et plutôt que de dire j'ai vu une boutique tout à l'heure, je lui présente le jeu, je lui dis c'est un jeu hybride, et il m'a regardé avec une tête et je lui fais attendez, moi il y a pas de souci, je comprends, il y a des gens qui opposent vraiment le jeu de société et le jeu hybride. Je dis, si vous voulez pas vendre de jeux hybrides et que ça vous intéresse pas, il y a pas de souci, je vous présente mon autre jeu. Moi, il y a pas de souci, je suis pas obligé de vendre mon jeu dans toutes les boutiques.
Ouais.
Les boutiques, elles ont une valeur ajoutée à faire leur sélection. Une boutique qui veut pas vendre de jeux hybrides, moi, j'ai aucun souci avec ça, et je veux pas faire une communication.
Pas faire le forcing.
Ouais, faire un moment, faut être honnête, c'est un jeu hybride. Si vous voulez pas jouer avec un téléphone, vous jouez pas à Phone Bomb.
Ouais.
Enfin, le jeu s'appelle Phone. Donc voilà, c'est assez explicite. La boîte est extrêmement descriptive aussi. Et du coup, Christopher avait joué à Paris Ludique, et puis je l'appelle, je lui dis écoute, voilà, moi j'ai un illustrateur, mais ça le fait pas. Je pense qu'il faut un projet plus graphique. Enfin, arriver à créer un contexte avec des petits animaux dans une forêt qui sont en train de désamorcer une bombe. Je sais pas. Enfin, en fait, il y a pas de thème dans le jeu. Enfin, en fait, on désamorce une bombe, le reste on s'en fout. Alors, je vais bien mettre un thème, et du coup, c'est la discussion aussi que j'avais eu avec Yann. Il m'avait dit bien, mais enfin, ils servent à quoi tes animaux? Tu mets des animaux juste pour qu'il y ait des animaux? Fous des pandas, t'auras peut-être un fil, je sais pas. Enfin, voilà. Moi, il l'a peut-être pas dit comme ça, et j'invente un peu des histoires, mais bon, à quoi ils te servent tes animaux? Ça, il me l'avait dit clairement. Il me dit, mais tu mets ça juste, tu sais pas quoi faire, alors tu fous des animaux, mais. Non. Et donc Christopher, du coup, qui est illustrateur, graphiste, il avait testé le jeu, il avait bien aimé, il avait du temps, du temps consacré au jeu, parce que il a envie d'un petit peu d'investir ce côté-là. Du coup, je lui dis ok, bingo. Et puis, je lui ai balancé un peu toutes mes problématiques, parce que c'est un jeu dans lequel on va jouer les cartes deux par deux. Et on va devoir les combiner par paire. Alors sur les protos de base, on va pouvoir dans le jeu, on va pouvoir couper des fils, rajouter du temps, etc. Et du coup, comme on joue les cartes par paire, le problème c'est que c'était difficile d'avoir un symbole qu'on puisse retrouver sur les deux cartes, mais quand on combine les deux cartes, ça marche toujours quel que soit le sens de la carte. Et parce que je voulais bien mettre en avant cette ergonomie-là, si on met qu'une carte, ça marche pas. Parce que dans les explications, des fois les gens c'est enquiquinant d'aller devoir parcourir tout le paquet pour sortir la bonne carte pendant votre démo, donc des fois au lieu d'en mettre deux vous en mettez qu'une, et à la fin des règles les gens ils vous disent alors du coup pour couper les fils jaunes on peut mettre qu'une seule pince jaune. Non, en fait j'ai toujours dit il faut jouer les cartes deux par deux, mais du coup là l'ergonomie soutient la chose, donc c'est devient une évidence. Du coup il a fait un chouette travail, et puis du coup on est parti sur un truc très graphique, très descriptif. Pour la boîte, un des très très gros problèmes des dames, on m'a dit, il reste à faire la boîte. Ouais. Allez faire une boîte quand vous n'avez jamais rien fait. Hein. C'est pas si simple que ça. Et puis, Et avec Christopher, je dis, un truc descriptif. Je sais pas, moi, je pense à des cryptos. Des cryptos, quand on voit la boîte. Alors, c'est pas exactement ce qu'il y a dans la boîte. Hein. C'est pas une photo. Hein. Il y a un petit peu de travail quand même. Mais, on est exactement dans le même univers et ça reste descriptif. Il y a pas une histoire. Il y a pas des petits personnages. On sait pas à quoi ils ressemblent, les agents secrets. On s'en fout en fait. C'est vraiment juste. On laisse complètement l'imaginaire. Juste, en fait, il y a le concept point. Ouais. En fait, et il y a pas un thème plaqué par dessus et ça marche très bien. Et du coup, avec Faux de Bombe, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. En fait, on a une bombe et puis on a très très peu de contexte autour. Alors après on a une ambiance, on a essayé un peu OSS 117, un peu rétro, avec une classe un peu beauf. J'aime bien faire le kéké. Les gens qui me connaissent, ça me correspond un petit peu. Voilà, le mec qui joue à se prendre au sérieux en sachant qu'il l'est absolument pas. Et voilà.
Pour expliquer un peu aux gens, Funbom, c'est un jeu, on va dire semi-coopératif. En gros, on est tous ensemble à devoir désamorcer la bombe. Mais on va pas gagner le même nombre de points en fonction de si on a joué certaines cartes, si on s'est enfui et que la bombe explose. Voilà. Donc c'est de la coopération sur le désamorçage, mais c'est en plusieurs manches, voilà. Et chacun va faire des points de manière différente.
Alors en fait c'est tout à fait ça. À la base, donc on désamorce une bombe. Si c'était coopératif, ça ce serait vraiment pas drôle, hein, parce qu'on combine les cartes deux par deux et c'est facile. Le jeu va commencer, comme il faut gagner plus de points que les autres, le jeu commence à partir du moment où un des joueurs va arrêter d'être coopératif. Et donc du coup, en gros, on a une bombe avec des fils piégés, des fils qui vont désamorcer la bombe, il y en a trois de chaque. Si on arrive à couper les trois bons fils, la bombe est désamorcée. Si on coupe les trois mauvais, la bombe explose. Et puis il y a un système d'indices qui permet de pas couper complètement les fils au pif, même si on sait pas exactement quel fil il faut couper. On peut fuir, on peut rajouter du temps et on peut préparer son interview. En fait, le principe, c'est que si la bombe est désamorcée, tous les joueurs qui sont restés vont marquer 2 points. Tous les joueurs qui ont fui ne marqueront pas de points. Par contre, si les gens sentent que ça commence à sentir mauvais, ils peuvent fuir. Et du coup, si la bombe explose, ils vont marquer 1 point.
S'ils ont fui.
Voilà. Alors que les autres,
ils ont lâchement abandonné.
Oui, parce que moi, j'aime bien la lâcheté. Je pousse à la lâcheté. Donc ça, c'est les deux premières choses. Sachant que quand on fuit, on rajoute du temps quand même sur la bombe pour que ceux qui restent soient pas non plus pour éviter que les gens fuient trop facilement parce que ça du coup ça aide un petit peu les gens qui restent. La deuxième chose c'est que en fait comme les caméras de télévision sont là, il y a toujours un petit malin qui va vouloir s'approprier le succès de l'opération. Et du coup, on peut jouer des cartes d'interview qu'on va mettre devant soi. Ça fait perdre du temps, donc on joue contre l'équipe parce que du coup la bombe risque d'exploser plus rapidement. Et en plus, on va marquer plus de points que les autres joueurs. Le joueur qui aura le plus préparé son interview, quoi, plus de cartes que les autres à la fin de la manche, marquera un point plus. Et donc du coup, toute cette petite dynamique fait qu'en fait, alors je sais pas si on peut dire des gros mots.
Si tu peux.
Ouais, c'est vraiment un jeu de pute.
Les auditeurs te jugeront.
Voilà, ils m'ont déjà jugé.
Ils te connaissent.
Voilà. Après j'ai une anecdote, mais je suis extrêmement bavard, je pense que.
Il nous reste en gros quelques minutes.
Ok. Juste peut-être l'anecdote de l'histoire de la signature du jeu.
Vas-y.
Ou I Love Craft, comme
tu préfères. On voulait parler un peu de Pixie aussi et de ton rôle chez Pixie, mais si t'arrives à faire très court sur tout ça.
On va dire que l'anecdote de comment je l'ai signé avec David, on le fera une autre fois et puis de toute façon je le referai.
Pas de souci. Avec plaisir. On aura l'occasion de te revoir au micro. Du coup, on voulait savoir si en parallèle de ton activité d'édition, tu continuais, t'avais une boîte, c'était de l'auto-entrepreneuriat, je crois, qui s'appelait Isle of Craft, et qui justement était dédiée à la fabrication de protos pour les éditeurs, etc.
Je faisais des prototypes, et puis, j'ai perdu des clients, je travaillais principalement pour Morning et pour Matago. Après quelques commandes ponctuelles comme ça et puis chez Matago je travaillais avec Yann de Matago qu'on appelle toujours Yann de Matago même s'il est plus chez Matago et du coup ça passait par lui donc il m'appelait tiens tu peux me faire ça pour dans 4 jours et puis je lui faisais et puis voilà et puis comme il est parti après la continuité c'est pas toujours simple et puis voilà donc du coup
ça a pas continué
et puis Morning c'est voilà.
Ok, donc tu fais plus.
J'en fais.
Et pour toi, du coup, pour ton activité.
J'en fais pour moi. Et puis après, je travaille aussi avec des imprimeurs locaux, moi, pour essayer de. Parce que les cartes, c'est chiant à faire. Ouais. C'est chiant à faire pour en avoir une bonne qualité. Donc par exemple, moi, je travaille régulièrement, comme tout le monde dans le jeu de société. Si un jour vous voulez être éditeur, vous voulez faire des prototypes, allez voir Nicolas Mers de Hazard Game. Tout le monde le connaît, tout le monde vous le recommandera. Et donc du coup, par exemple, Funbom, c'est lui qui m'a fait les cartes et les boîtes pour que je puisse faire les démos à Cannes sur un produit qui ressemble un minimum à un produit fini.
Très bien. Et du coup, les derniers mots de l'interview, tu travailles avec Pixie Game, qui est ton distributeur, et j'ai cru comprendre que tu avais pris aussi une part de responsabilité chez Pixie Game dans notamment l'organisation des festivals et des salons.
Ouais, alors en fait c'est après Cannes l'année dernière où il a fallu un peu improviser. On a improvisé et puis j'ai dit c'est cool d'improviser, hein, ça se passe bien. Mais si on peut prévoir à l'avance, c'est cool aussi. Et puis, bah, de toute façon, moi, les salons, fallait que je les gère pour moi-même. Donc, les gérer pour moi ou les gérer pour moi et Pixie, voilà. Et puis, bon, je savais que sur le long terme, c'était aussi un placement. Enfin, voilà, personne n'était naïf sur la chose. J'avais du temps à leur consacrer, ça arrangeait tout le monde. Et puis, j'espérais qu'un jour, ça consolidait une relation. Enfin, ouais. Voilà, un partenaire, enfin, le distributeur, c'est important pour un éditeur. C'est une relation assez forte. Et puis, bah, petit à petit, ça grossit parce que bon, on gère les festivals, mais du coup, on contacte avec tous les éditeurs. Et puis, j'avais été, je fais partie aussi de l'Union des éditeurs de jeux. Je faisais partie de la commission formation. J'avais essayé de monter un peu un parrainage, une idée de parrainage, parce que bah, moi, j'étais nouveau. Je voyais que j'avais plein de questions à poser, mais que je voulais pas non plus emmerder les gens, les appeler, etc., et que d'avoir un parrain peut-être. Et puis c'était compliqué, les gens se sentaient pas forcément légitimes, ils ont pas forcément le temps. Enfin, c'est l'éditeur, c'est généralement c'est un mec qui travaille chez lui, qui quand il arrive un petit peu au début, il se paye au SMIC, il est content. Si en plus faut qu'il s'occupe de tutorer un éditeur qu'il connaît pas, il se dit putain le mec si je lui plante sa boîte parce que je lui file des mauvais conseils, il se payera un demi SMIC et ce sera un peu de ma faute. Donc voilà. Et du coup bah je l'ai fait un peu avec Pixie parce que du coup bah je contactais avec tout le monde et puis petit à petit j'ai mis le doigt dans certains problèmes en disant mais et si on faisait ça et si on essayait de faire mieux ça et puis ça et puis ça et puis on organisait ça, on organise Cannes et puis à un moment la question c'est mais on fait quoi parce que moi j'organise les salons, OK, mais c'est quoi organiser les salons? Vous voulez que j'appelle les boutiques avant pour vérifier que les jeux ils sont bien présents? Vous voulez que j'aille les voir après? Quitte à se déplacer, est-ce qu'on ferait pas une tournée boutique, etc. Enfin, ce genre de choses. Il y a plein de choses. Et puis, à un moment, je leur ai dit, écoutez, enfin, soit vous me payez, je vous dis, une inscription pour un festival, ça coûte 2 €. Enfin, voilà, une grille de tarifs, mais c'est un peu compliqué, c'est super chiant à faire. Voilà. Soit on part sur un forfait, mais bon, du coup, enfin, un truc raisonnable. Soit après, comme on peut aller très très loin. Pourquoi pas passer associé? Juillet-août l'année dernière, on m'avait dit ouais, je sais pas, c'est peut-être un petit peu tôt, etc. Enfin voilà, on travaille pas depuis tant de temps que ça ensemble. Et puis il y a eu Essen, il y a eu quelques éléments et puis je suis passé associé là.
D'accord. Pour officiellement partie de la famille Pixie.
Ouais, j'ai géré l'export des jeux.
À l'international.
D'essayer de trouver des partenaires internationaux pour nos éditeurs et pour les jeux édités par Pixie, les quelques jeux qui ont été édités par Pixie. Et donc voilà.
On arrive un peu à terme de temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on essaiera de te retrouver.
Très bavard, hein. Ouais.
On essaiera de te retrouver une autre fois. Mais merci beaucoup Alexis pour être venu. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Mais merci bien à vous.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre Tipeee pour nous soutenir. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt, et surtout,
maintenant que vous savez quoi faire de vos 10 doigts,
jouez bien.